19h, vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1.
Je crois que ce 8 avril sera une étape importante, quoi qu'il arrive, sur le chemin de l'ultime liberté.
L'ouverture à l'Assemblée des discussions sur la proposition de loi ouvrant le droit à une fin de vie libre et choisie, portée par le député Olivier Falorni, qui a été ovationné à l'ouverture des débats.
Elle a donné à la France 4 présidents de la République et 9 chefs de gouvernement. L'ENA va être supprimée.
Un acronyme symbole d'un ascenseur social à deux vitesses. Elle sera remplacée par une nouvelle école de la fonction publique. Jean-Luc Mélenchon ne comprend pas bien le timing.
Le Brésil, confronté à une situation sanitaire incontrôlable, pourtant le président Bolsonaro refuse toujours de prendre des mesures.
Une attitude criminelle qui pourrait compromettre tous les efforts pour éradiquer la pandémie, nous dira Didier François.
Au sommaire également ce soir, les mesures prises pour protéger les vignobles du gel ont entraîné une pollution de l'air, visible à l'œil nu, notamment dans la vallée du Rhône.
Et puis un billet pour les quarts de finale de la Coupe de France de foot. En jeu ce soir, le Red Star, club de National face à Lyon. Le coup d'envoi vient tout juste d'être donné. On sera sur place à la fin de ce journal avec Cyril de la Morinerie.
La météo avec Anissa Haddadi, des nuages, mais de la douceur aussi au programme demain.
Ouais, oui, on ne peut pas tout avoir, hein, Julien. Effectivement, c'est le retour des nuages et de la pluie demain sur une grande partie du pays. Mais bonne nouvelle, le thermomètre va nettement grimper demain et dépasser même les 20 degrés. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Depuis cet après-midi, l'Assemblée examine donc une proposition de loi sur la fin de vie portée par le député Olivier Falorni, sujet ô combien sensible, on a encore pu le constater dans l'hémicycle tout à l'heure.
Oui, tellement sensible, Hélène Terzian, que ce débat n'a quasiment aucune chance d'aboutir.
Et oui, parce qu'une avalanche d'amendements déposés par une poignée de députés LR vient faire barrage à ce texte. À la tribune, le député Olivier Falorni a très vite dénoncé cette obstruction parlementaire face à une pile de 4000 amendements.
Aujourd'hui, le visage de l'Assemblée nationale, il est là, devant moi. Ce sont ces 4000 amendements. Ces 4000 amendements, mes chers collègues, ces feuilles, elles n'ont qu'un but, d'empêcher l'Assemblée nationale, d'empêcher les représentants de la nation.
Ovation, on l'entend dans tous les rangs de l'hémicycle, puisqu'on le sait, plus de 272 députés de tous bords politiques soutiennent ce texte. De manière apaisée, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a salué les députés qui se sont emparés du sujet, mais préfère à cela une meilleure application de la loi Claeys-Leonetti. Le ministre estime que ce débat nécessite plus de temps. Plus tôt dans la journée, l'exécutif a suggéré qu'il s'agissait d'un sujet de campagne présidentielle, ce qui est loin de convaincre la députée LFI Caroline Fiat.
Non, nous voulons voter aujourd'hui, nous ne voulons pas attendre. Pourquoi en faire un sujet présidentiel alors qu'aujourd'hui c'est un sujet législatif? Ne nous laissons pas retirer ce sujet aujourd'hui.
Mais on l'a compris, avec plus de 4000 amendements à examiner d'ici minuit, sauf énorme coup de théâtre, la course contre la montre est déjà perdue d'avance.
Hélène Terzian, merci à l'Assemblée nationale.
Comme Europe 1 vous l'annonçait dès ce matin, Emmanuel Macron s'apprête à acter la fin de l'École nationale d'administration, l'ENA.
Elle sera remplacée par une nouvelle école, l'ISP, l'Institut du service public. Le chef de l'État souhaite ouvrir à de nouveaux candidats les grands corps de l'État qui administrent aujourd'hui le pays, dont les plus connus sont l'inspection des finances, le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Il veut attirer des profils plus variés venant des universités et plus uniquement de Sciences Po.
Oui, pour la formation, un nouveau tronc commun sera dispensé à tous les hauts fonctionnaires pour les confronter davantage aux nouvelles réalités du terrain. Enfin, Emmanuel Macron s'attaque à la réforme des carrières en encourageant les mutations, en cassant les logiques de corps et de rente à vie.
Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a bien du mal à comprendre pourquoi le président choisit ce moment pour faire cette annonce.
Depuis quand ça devient un sujet de réformer l'École nationale d'administration? Là, il s'agit de la supprimer. C'est de la guignolade pour amuser l'opinion publique, l'occuper à des débats sur des questions qui n'ont pas lieu d'être. Je vous signale qu'à l'heure à laquelle on parle, tout le monde se demande avec angoisse ce qu'on va devenir, aussi bien côté bazar à l'école dans l'éducation nationale, chaos dans la vaccination et des vagues de masse de licenciements. Et c'est le moment que le chef de l'État trouve pour dire « Alors, vous voulez, on va jeter des pierres aux fonctionnaires ?» Alors, il faut changer ça, c'est clair. Il faut prendre d'abord les gens du rang, les gens du terrain, et leur permettre cette ascension jusqu'aux fonctions supérieures de l'État. Mais supprimer l'ENA, c'est juste pour qu'on se mette tous à aboyer contre les fonctionnaires au moment où ce sont les riches qui posent problème au pays et pas les fonctionnaires.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise.
Notre pays a dépassé ce jeudi les 10 millions de premières injections de vaccins contre le Covid-19. C'est une barre symbolique, mais encore très éloignée d'une protection totale face à l'épidémie qui remplit toujours plus les services de réanimation.
Oui, nous sommes à une semaine d'avance sur l'objectif que j'avais fixé. C'est ce qu'a dit cet après-midi le Premier ministre, Jean Castex, lors d'un déplacement dans un centre de vaccination à Nogent-sur-Marne, près de Paris. Les prochains caps sont désormais les 20 millions de premières doses à la mi-mai, théoriquement, puis 30 millions à la mi-juin.
Et si chez nous, on commence doucement à entrevoir le début du bout du tunnel, le Brésil, lui, est en train d'être terrassé par cette pandémie, sur le point de mettre à genoux le pays. 4000 morts par jour, déjà 340 000 victimes du coronavirus et des courbes qui s'envolent.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Le gouvernement de Jair Bolsonaro semble complètement débordé.
Oui, c'est le terrible constat que dresse l'Institut National Fiocruz, qui est un peu l'équivalent du local de l'Institut Pasteur. Effectivement, l'économie de Covid-19 est totalement hors de contrôle, et cela sur l'ensemble du territoire brésilien. 66 800 malades décédés, rien qu'au mois de mars. Et les projections épidémiologiques prévoient plus de 100 000 morts à la fin avril. C'est un drame sanitaire d'une ampleur sans précédent. Le système de santé du pays est plus que saturé, incapable à ce stade de faire face sans une aide extérieure massive. Les taux d'occupation des services de soins intensifs dépassent les 90% dans désormais 17 États, sachant que le Brésil en compte 27 avec le district fédéral de Brasilia, la capitale administrative, qui est elle-même complètement submergée par la maladie. Des dizaines de malades y sont morts dans les couloirs des hôpitaux en attendant qu'il se libère un lit en réanimation. À Sao Paulo, les cimetières sont ouverts jour et nuit. On y creuse 600 nouvelles tombes chaque jour. C'est vraiment terrifiant. Et pourtant, le président Jair Bolsonaro s'entête dans sa négation du problème. Il n'a pas bougé d'un pouce sur sa position de départ, qui était que le coronavirus, finalement, ne présentait guère plus de dangerosité qu'une grippette. C'était son terme. Et il se refuse toujours à imposer la moindre mesure de confinement à l'échelle nationale. Il a même autorisé les rassemblements religieux sans geste barrière pour les fêtes de Pâques, profitant de l'occasion pour appeler le Brésil à retourner au travail. C'est absolument lunaire.
Au point que l'inaction des autorités fédérales brésiliennes commence à sérieusement inquiéter au-delà des frontières du pays.
Oui, parce que cette attitude totalement irresponsable met en danger les plans de lutte contre la pandémie qu'ont mis en place tous ses voisins d'Amérique latine et plus largement d'ailleurs tous les pays avec lesquels le Brésil continue à avoir des relations commerciales, des liaisons aériennes, enfin des échanges sans le moindre contrôle, alors que ces scientifiques ont déjà identifié 92 nouvelles souches du coronavirus qui circulent dans le pays et dont certaines, pas toutes heureusement, sont particulièrement virulentes comme le variant amazonien, le fameux P1. Et donc oui, la crainte c'est vraiment que le Brésil se transforme en une sorte de gigantesque réservoir de variants à Covid qui réinfecterait en permanence l'ensemble de la planète. C'est vraiment un sujet de préoccupation sérieux que va devoir traiter la communauté internationale.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h10, avant-hier soir dans ce journal, on vous parlait de la vive inquiétude des viticulteurs face à la baisse drastique des températures qui risquaient de faire geler leurs vignes. Ils nous expliquaient qu'ils avaient tout mis en place pour éviter le pire.
Et malheureusement, dans plusieurs régions de France, le pire n'a pas été évité. Et on découvre par ailleurs aujourd'hui que les mesures mises en place contre le gel ont entraîné une forte pollution. C'est notamment le cas dans la vallée du Rhône, Jean-Luc Boujon.
Effectivement, un voile grisâtre qui s'est développé dans toute la vallée du Rhône, grosso modo d'Avignon jusqu'à Lyon, où il était encore visible en début de matinée, explique Géraldine Guillot de l'organisme Air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui mesure la qualité de l'air dans la région.
Ça a commencé assez tôt finalement dans la nuit, à partir de minuit 1h. Les agriculteurs ont dû passer une nuit assez terrible d'ailleurs. Et donc un voile grisâtre, voire même presque noir à certains endroits, qui est assez exceptionnel cette année, d'une rare ampleur, ce qui nous conduit donc à mettre en place une vigilance de pollution sur le bassin lyonnais et sur la vallée du Rhône.
Alors à l'origine de cette pollution, il y a les systèmes de brûlage destinés à protéger les cultures contre le gel. La nuit dernière, il a fait jusqu'à moins 5 degrés dans le secteur, d'où l'allumage de bougies ou de ballots de paille. C'est ce qu'a fait David Vial, qui cultive de la vigne et des abricots à Mercurolles dans la Drôme.
C'est notre outil de travail, c'est notre gagne-pain. On essaye de sauver notre saison. Donc effectivement, il y a un gros nuage qui se dégage, mais c'est une fois dans l'année, voire deux. Après, on n'a pas bien d'autres moyens pour essayer de défendre. C'est vraiment de sauver notre saison, quoi.
Voilà, alors pour l'instant, personne n'a trouvé d'alternative pour lutter contre le gel. Elle procédait à d'ailleurs d'ailleurs été d'une efficacité assez inégale la nuit dernière. Seule consolation, il ne sera pas nécessaire cette nuit puisque les températures ne vont pas cette fois descendre aussi bas.
Une précision de Jean-Luc Beaujon, correspondant d'Europe 1 en Rhône-Alpes. Les laboratoires Servier, reconnus coupables de tromperie aggravée et d'homicide des blessures involontaires dans le scandale du Mediator, confirment aujourd'hui qu'ils vont faire appel de leur condamnation.
Aux États-Unis, Joe Biden appelle à l'interdiction des fusils d'assaut pour les particuliers.
Oui, le président américain présente son plan pour lutter contre ce qu'il appelle l'épidémie de la violence par arme à feu, un plan limité. Mais il faut rappeler qu'on est aux États-Unis, aucun président n'a osé toucher à ce sujet tabou. Environ 300 millions d'armes à feu sont détenues par des particuliers américains.
Allez, du sport au lendemain de l'exploit du PSG sur le terrain du Bayern Munich. Place ce soir à la Coupe de France.
Et oui, le Red Star, club de national, affronte l'OL en 8e de finale. Les joueurs de Saint-Ouen à domicile dans leur mythique stade Bauer où vous vous trouvez en direct, Cyril de la Morinerie. La rencontre a débuté depuis une douzaine de minutes.
Exactement, 0-0 entre le Red Star et Lyon, et ce stade mythique qui sera bientôt rénové. En face, j'ai des grues, j'ai un immeuble à droite où il y a beaucoup de supporters qui sont aux fenêtres. Ils ne peuvent pas aller bien évidemment dans cette enceinte en raison du coronavirus et des règles sanitaires, mais ils encouragent énormément leur équipe avec ce maillot vert du Red Star qui a remporté 5 Coupes de France dans une histoire, plus d'un siècle de partage et d'exploit pour ce club qui reçoit Lyon. C'est le véritable événement. Ils font face pour l'instant aux Lyonnais qui n'ont pas eu d'occasion. Les Lyonnais de Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, qui est là parce que Lyon a été expulsé du podium. Il y a une pression plus importante sur Rudy Garcia, même s'il a dû faire tourner son effectif. C'est Paul Herbeck qui est titulaire ce soir puisque Lopez est blessé dans les buts. Et puis il y a quelques absents comme Dubois, comme Cornet, Aouar notamment. Mais Depay, le capitaine, est bien présent ce soir sur cette pelouse. Que c'est un objectif prioritaire pour l'équipe lyonnaise. Voilà, 0-0 entre l'équipe de National, le Red Star, et les Lyonnais qui sont quatrième de Ligue 1. 12 minutes de jeu.
Merci beaucoup, Cyril de la Morinerie, en direct.
Merci
donc.
Merci Isabelle, c'était le journal d'Isabelle Millet, qu'on retrouve demain évidemment à la présentation du 18-20 à ce même micro. La météo, Anissa Dadi, un temps plus couvert au programme demain.
Oui, avec des nuages qui arrivent par la façade atlantique, le Poitou-Charentes, le Bordelais demain matin sont sous les nuages avec quelques petites averses. Pareil dans le sud, sur les Cévennes et sur le Massif central, là aussi on aura un temps couvert avec quelques gouttes. Au fil des heures, cette perturbation va avancer, toucher l'Île-de-France, la Normandie, la Bourgogne, le centre-val de Loire. En fait, il n'y a que sur la façade est qu'il fera véritablement beau demain. Les températures, encore quelques gelées matinales avec moins 3 à Charleville-Mézières, moins 1 à Belfort, 2 degrés à Rennes, 5 à Paris et 10 à Biarritz. Puis vous l'avez constaté, il fera plus doux, ça grimpe avec 12 degrés à Cherbourg, 14 à Brest et Lille, 16 degrés à Saint-Étienne, 17 à Lyon, 18 à Paris et 21 pour Bordeaux.
Merci ma chère Anissa, à demain 18h. Europe 1.